Bonjour à tous, à ceux qui reviennent de vacances et qui m'ont fait envie cette semaine, à ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont des habitués de cet espace, Dieu nous a donné rendez-vous. Dieu nous a donné rendez-vous ce matin et il souhaite nous parler, l'a déjà fait à plusieurs reprises. On va lire un passage du livre d'Ésaïe et je vais vous demander à la technique de pouvoir l'afficher. C'est vrai que je ne prépare jamais les textes, je les lis, donc je vous laisse les écouter. Mais là, j'aimerais bien que ce texte-là soit affiché. Alors, ce sera une prédication un peu particulière. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je dis ça toujours quand il y a des nouveautés. ça attire l'attention du chaland. C'est une prédication que j'ai préparée à plusieurs mains. Donc, il y a au moins 6 ou 7 personnes qui m'ont aidé à la préparer. Mais j'ai bien précisé au groupe de prière mercredi que je conservais les royalties de cette prédication et que je ne les partagerai pas. D'accord ? D'accord, Michel ? Comment ? Il n'y a pas de royalties ? On n'a pas de royalties sur les... Et c'est après 40 ans que tu me dis ça ? Bon, la parole de Dieu est gratuite, alors recevez-la. Alors, c'est une parole que j'ai partagée il y a quelques jours avec le groupe de prière. Je leur avais envoyé ce texte-là en disant « Ce sera la méditation de ce temps de prière et d'intercession. » Mais j'avais déjà décidé depuis plusieurs jours d'utiliser cette parole comme le point de départ de la prédication. Et puis j'ai fait travailler les membres du groupe de prière pour qu'ils me donnent des idées, qu'ils alimentent. Et c'était vraiment super. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, déjà, je suis plutôt fainéant par nature. Donc, si la charge de travail peut être séparée entre plusieurs, ça me convient bien. Et je vais vous lire ce texte-là. Vous pouvez l'afficher ? Donc, c'est affiché, mais je n'aurais pas donné la référence. Ésaïe 43, du verset 15 au verset 21. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles parce que c'est vraiment un texte qui m'a profondément touché et je crois qu'il est dans la ligne de ce que nous avons reçu ce matin. Donc, Ésaïe 43, verset 15 au verset 21. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur les versets 15 au verset 19. Lorsque j'ai vraiment reçu ce texte, j'ai eu la curiosité d'aller le lire dans une autre version, qui est la version que j'affectionne particulièrement, bon, qui est plus difficile à lire, mais qui est faite par André Chouraki, un hébraïste qui avait la connaissance de la langue hébraïque, et qui le traduit comme ceci. « Moi, Adonai, votre sacré, le créateur d'Israël, votre roi, ainsi dit Adonai, le donneur d'une route à la mer et sur les eaux rudes d'un chemin, le sorteur du char et du cheval, de l'armée, de l'inexorable. Ils se couchent ensemble et ne se lèvent plus. Ils vacillent et tombent comme une mèche, ils se sont éteints. Ne vous souvenez pas des premières. Ne discernez pas l'antiquité. Me voici, je fais une nouveauté, maintenant elle germera. Ne la pénétrez-vous pas. Je mets même une route au désert, des fleuves dans le Yeshimon, dans le désert. » Alors, j'avais vraiment à cœur de partager ce texte avec vous. Et on l'a lu, réfléchi ensemble, partagé ensemble, pour en tirer des pensées qui soient venues de plusieurs regards différents. La version seconde que vous avez sous les yeux attribue un titre que l'on peut juger d'assez conventionnel finalement, et bien dans l'esprit de l'Ancien Testament. Le titre de ce chapitre 43, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Je dis conventionnel parce que l'alliance entre Dieu et Israël est tout entière axée sur cette identité du peuple juif, une nation qui se doit découvrir que c'est Dieu qui l'a créée, ce que le verset 1 du chapitre 43 rappelle, « Bicha acha Yaakov, j'ai créé Jacob ». Et le verbe qui est utilisé, « Bacha », c'est le verbe qui est dans le premier verset de votre Bible. « Boreshit bacha Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce verbe, au commencement, Dieu créa, bara, c'est une création qui a ceci de particulier, c'est que c'est une création ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Et cela, cette manière de créer à partir de rien, il n'y a que Dieu qui soit capable de le faire. Si je ne vous donne rien et que je vous demande de créer quelque chose, vous allez me dire, ça va être compliqué. Mais vous allez me répondre, bah donne-moi un crayon, donne-moi de la farine, quel que soit le projet à créer, un gâteau, un livre, etc. À partir de rien, il vous faut de la matière. À Dieu, il a fallu rien du tout pour qu'il crée l'univers et tout ce qu'il comporte. Il créa à partir de rien. Et Dieu a créé aussi Israël à partir de rien. Israël n'existait pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu choisisse un homme, Abraham, fasse alliance avec lui, et de cette alliance naisse ce que lui avait prévu. À partir de rien. Si Dieu est capable de créer à partir de rien, que peut-il faire dans chacune de nos vies, de nos existences, parce que nous sommes là. Et j'ai entendu une parole, là, tout à l'heure, qui a été donnée. Ne dis pas, je n'ai pas été désiré. Ne reste pas dans l'affliction, parce que je t'aime d'un amour éternel. Michel disait, et plusieurs peuvent être concernés par cela. Peut-être que certains disent vraiment dans leur esprit, je n'ai pas été désiré, donc je n'ai pas été voulu par amour. Et Dieu te dit ce matin, en fait, ce que tu es est précieux et je t'aime d'un amour éternel. Cette volonté créatrice concernant Israël ne donnait pas à Israël une prééminence sur les autres nations, du moins au regard de son importance, mais seulement une importance en matière de révélation. Israël a été choisi pour devenir le canal de la révélation du plan de salut de Dieu au milieu des autres nations. Ce n'est pas une nation meilleure que les autres. Elle a été choisie afin de devenir un canal de révélation. Ah. Alors c'est vrai que chez nous autres évangéliques, on a parfois un attachement psycho-affectif à Israël. Mais je relisais des ouvrages qui parlaient justement de la mission d'Israël. Israël a une mission, a été élu pour. On est de l'ordre d'Israël de la même nature que de l'ordre des ministères dans l'Église. Dans l'Église apostolique, qu'est-ce qu'on est ? On a été élu parmi toutes les églises pour avoir des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Qu'est-ce qu'on est bien ! Et on s'en est glorifié. Je peux vous dire que dans l'Église apostolique, à partir des années 70, on a oublié ce qu'était le sens de cette Église pour se dire « il faut qu'on ait des ministères ». Mais les ministères d'Éphésiens 4, 11, Dieu a donné des ministères pour. Et le sens des ministères, c'est la mission qui leur est dévolue d'être porteurs de révélation pour que l'Église et les saints dans l'Église, les croyants, grandissent Mais si leur mission, c'est de se regarder le nombril en disant « Qu'est-ce que je suis beau comme pasteur ? Regardez-moi, j'ai une belle cravate. Hein ?» Je ne sers à rien. Et Israël n'a pas plus d'importance si Israël oublie que sa mission, c'est de révéler Dieu aux nations. Ah oui. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dira que le jour où Israël se réveillera, ce sera pour la vie et la résurrection, parce qu'ils seront à nouveau porteurs de cette mission, révéler le Messie aux nations et l'importance d'une rencontre avec ce Messie. En fait, ils ont été élus pour l'édification de ceux qui cherchent Dieu. Alors, j'ai envie de dire, Israël n'a pas de sens parmi les nations. Elle n'en a pas, sinon son appel à être un témoin privilégié du plan de salut de Dieu parmi et pour les nations. Une position et un rôle qui aujourd'hui sont en quelque sorte en stand-by. Et l'actualité en ce moment nous parle d'un Israël qui est la nation qui essaye de défendre son existence, sa sécurité. Et je n'ai rien contre et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils défendent aussi notre sécurité en agissant aussi de cette manière-là. Mais ce que j'attends, c'est que dans l'Apocalypse, il est dit qu'à un moment donné, Israël, dans les derniers temps, se positionnera par rapport au Messie. Et ils proclameront Christ. Et ils retrouveront toute la plénitude de leur appel. Comme certains, pasteurs, apôtres, etc., qui découvrent tout à coup qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes, mais pour servir l'Église et les croyants. Alors, j'ai lu ce passage-là, avant la formation du 7 juin dernier, il y a 8 jours, consacré aux agressions sexuelles avec l'association Reprend Vie. Et quand j'ai proposé la lecture de ce texte, j'ai pris conscience par la réaction d'une des sœurs qui était là que ce texte semblait parler de souffrance et que ça pouvait rajouter de la souffrance à la souffrance après une journée assez lourde, une souffrance dont nous sommes logés parfois tout au long de notre vie, parfois dès le début de notre vie. Je n'ai pas eu conscience de cet angle de lecture de mon côté, mais c'est vrai qu'en le relisant, je comprends que l'on puisse être confronté à cet aspect de notre vie quand il est parlé de désert, de temps difficiles, d'adversaires, etc., notamment lorsque Dieu parle à son peuple des adversaires babyloniens persécutant le peuple de Dieu, des puissances mobilisées pour s'opposer aux justes et aux croyants, des temps déserts à traverser, des terres arides où habiter. Je comprends que ça puisse être quelque chose de difficile à entendre. Lorsqu'Ésaïe prophétise, il a eu un ministère assez exceptionnel. Il a exercé son ministère en même temps que Amos, Osée et Michée, mais sous 4 rois différents. 4 rois aux alentours de 785 jusqu'à, je dirais, 625-630. Et donc, il a exercé son ministère sous Ozias, qui a réparé Jérusalem, mais qui, à côté de ça, a conservé le culte des idoles sur les hauts lieux, c'est-à-dire Dieu, il l'avait laissé de côté. Il a régné pendant 52 ans, il a essayé d'usurper les fonctions sacerdotales, c'est-à-dire qu'il a voulu être et roi et prêtre. C'est comme si un président disait « Je veux être président des États-Unis et je veux être aussi le roi. » Ah tiens, ça, non, ça, c'est, je suis repris par l'actualité, par BFM, excusez-moi. J'ai vu plein de manifestations, on ne veut pas de roi aux États-Unis hier, ça m'est resté en mémoire. Et puis, à cause de cela, il a été touché par la lèpre. Parce qu'il a essayé d'usurper la fonction de prêtre. Et puis, Ésaïe a été aussi du temps de Jotham, le fils d'Ozias, qui a été fidèle à Dieu, mais a été partagé. Il a lui aussi laissé les hauts lieux pour adorer d'autres dieux. Il y a eu Akaz, qui était le fils de Jotham, qui était idolâtre. L'Écriture dit qu'il a fait passer son fils par le feu, c'est-à-dire qu'il a sacrifié un de ses enfants. On ne peut pas dire que ce soit un roi idéal. Et puis, il y a eu le 4e roi sous lequel Ésaïe a vécu son ministère, c'est Ézéchias, et lui, Il a régné pendant 35 ans, il a servi Dieu, il a détruit les autels construits par son père, son grand-père, et donc il a fait une œuvre pour restaurer la foi au milieu d'Israël. Alors, quand on voit ça, on se dit que cela parle de cela, ce passage. Et quand on lit ce passage, on se dit, mais ça c'est un texte qui concerne Israël, c'est bon pour la connaissance. Bon, après tout, est-ce que ça nous concerne bien? Et je comprends, et quand on était mercredi ensemble, quand on a lu ensemble, ce titre, vous savez, les titres des paragraphes, c'est pas la parole de Dieu, c'est des titres qui sont donnés par les traducteurs. Et dans la version seconde, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Alors j'ai envie de dire, certainement que comme moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis dit, bon, ça concerne Israël. Hein. On n'a pas forcément une attention personnelle et individuelle à se mettre dedans et se sentir concerné. Ouais. Et pourtant, c'est un texte qui parle de la vie, qui parle des difficultés, qui parle de la foi, de l'espérance en Dieu. C'est aussi un texte qui parle de comment Dieu nous voit. Alors, ce passage dans la version seconde, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. J'ai eu la curiosité d'aller lire le même texte que je vous ai lu dans la version d'André Chouraki. Et mercredi soir, j'expliquais à ceux qui étaient là que le titre de ce passage, tout à coup, m'a profondément touché. Parce que là où seconde dit c'est l'Éternel seul qui rachète Israël, chapitre 43, André Chouraki donne ce titre. Je t'aime. Et tout à coup, je me suis senti beaucoup plus concerné. Ça répondait davantage à mes besoins. Le chapitre 43 pour Chouraki, c'est Dieu qui dit « Je t'aime ». Et je partageais ça avec le groupe de prière de mercredi. Et je me disais, et je nous disais, autant si on reste concentré sur une vision d'Israël, on se dit, ouais, ça peut nous parler par ricochet. Mais là, il s'agit bien de Dieu qui dit à son peuple, que ce soit Israël, ou que ce soit l'Église, que ce soit le Juif, ou que ce soit moi, français à moitié vietnamien, Dieu me dit, je t'aime. Et tout à coup, je me sens concerné. Alors, ce texte, chapitre 43, c'est Dieu qui dit à son peuple, à chaque membre de ce peuple élu par lui, Israël ou l'Église, je t'aime. Je t'aime dans ce que tu es aujourd'hui, dans ta fidélité ou tes égarements. Je t'aime dans les temps de victoire comme dans les moments de défaite. Je t'aime dans tes pas de foi comme dans ton incrédulité ou tes doutes. Je t'aime dans tes engagements pour moi et pour les autres, comme dans tes replis sur toi-même, dans les priorités de ton ego, je t'aime. Ah. Est-ce que vous entendez cette proclamation, je t'aime? Est-ce que vous ressentez comment ce créateur de la vie nouvelle qui nous anime, qui nous donne le droit de nous tenir devant lui, a la volonté tenace de se donner à être aimé? J'aime beaucoup, j'ai trouvé ça vendredi. J'aime bien cette formule. Il a la volonté tenace de se donner à être aimé, parce qu'il s'est donné. Et il s'est donné pour être aimé et à être aimé. Je suis, dit le verset 15, l'Éternel, votre saint. Alors, c'est, je crois que c'est Fanny qui a mercredi repris cela, parce que dans le texte de Chouraki, c'est votre sacré. Et moi, je lisais ça, je dis, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que j'ai regardé dans l'hébreu, c'est aussi cette traduction-là. Et quand j'ai relu Chouraki, parce que je ne pouvais pas lire je suis l'Éternel, votre sacré, sans que ça me renvoie à la discussion entre Moïse et Dieu sur le. Lorsqu'il est au buisson ardent. Et quand il dit, oui, mais si je vais, je reviens souvent en ce moment sur ce verset, si je vais vers Pharaon, je lui dis quoi? Si je vais vers le monde, je lui dis quoi ? Et peut-être que vous êtes posé, oui, moi je veux bien faire de l'évangélisation, mais je vais y aller au nom de qui ? Comment je vais présenter Dieu ? Et là, Dieu dit à Moïse, dans Exode 3,14, « Vayehé, Asher, Vayehé », c'est-à-dire « Je suis celui qui est ». Et Shuraki, je n'avais pas été voir comment il traduit, il dit « Je suis l'être invariable ». Être invariable. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas concerné par le passé, je ne suis pas concerné par le présent et je ne suis pas concerné par l'avenir. Je suis en dehors du temps. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe. Dieu a fabriqué le temps auquel nous sommes assujettis. Lui, il est en dehors de ça. Et c'est pour ça qu'il dit à Moïse, je suis l'être invariable, celui qui est, tout simplement. Et quand Ésaïe prophétise, au chapitre 43, verset 1, il dit déjà ceci, je suis l'Éternel, celui qui est, je suis. Et c'est là que Shuraki va dire, je suis l'être invariable. Et il dit ensuite, je suis votre saint. Alors quand je lis cela en hébreu, je suis votre sacré. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Tu parles d'une présentation d'Ésaïe, il ne pouvait pas faire plus simple parfois. Il m'a dit, il se complique là. Votre saint, alors je dis votre saint, ouais, mais ça renvoie à des réminiscences catholiques. Hier, c'était vendredi 13, c'était la Saint-Antoine, et mon voisin en face de chez moi, dont je sors le chien épisodiquement, il s'appelle Antoine. Et quand je l'ai croisé hier matin, j'ai dit, tu joues au loto aujourd'hui ? Il me dit, pourquoi ? Je dis, vendredi 13, Saint-Antoine, c'est ta fête. Alors vas-y, joue. Bon, après, on parle souvent de la relation à Dieu, qui est un loto beaucoup plus efficace et où on gagne à tous les coups. Je suis votre saint et votre sacré. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On discutait de cela. Fanny disait que ça, pour elle, ça parlait de quand Dieu dit « Je suis votre saint », c'est l'espace de la sainteté que Dieu représente. Et cet espace-là, qui pourrait être excluant et qui, en fait, en définitive, ne l'est pas. Comment comprendre cette formulation ? Nous pouvons imaginer que la formulation choisie par Second est la plus simple. Elle a le mérite de renforcer l'idée que Dieu est saint, et ça renvoie aussi à l'idée que nous devons être saints comme il est saint. Mais on le voit dans le Lévitique, chapitre 11, verset 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et là, dans ce passage, à deux reprises, je suis votre saint, votre saint, votre sacré. Et là, c'est Nicole qui m'a peut-être donné une clé. Votre saint. En fait, Nicole disait, et je vais citer plusieurs prénoms, vous étonnez pas, Nicole disait, je m'arrête au fait que Dieu dit, je suis celui qui vous rachète. Et donc, en fait, ce qui est au centre, c'est l'œuvre de rachat et de rédemption, et c'est Dieu qui l'accomplit. Et Nicole a retenu la question du pardon comme essentielle. Pour avancer, disait-elle, et vivre la parole de Dieu, il est indispensable d'être pardonné et de pardonner. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais quand Ésaïe dit, fait dire à Dieu, où Dieu dit, et Ésaïe le répète, « Je suis votre sacré, votre saint. » Je crois qu'il centre son message, lui aussi, sur la question du pardon. Pas seulement sur le pardon que d'autres humains auraient à nous accorder ou que nous aurions à accorder. Non, il s'agit du pardon premier, essentiel, celui dont l'humanité tout entière a besoin, le pardon de Dieu. Ce pardon qui est accordé par la grâce révélée en Jésus-Christ. Ainsi, verset 1, parle l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça, verset 1. Est-ce que nous pouvons dire que lorsque Dieu prononce ces mots, je suis votre sacré, c'est qu'il renvoie l'homme à cette possibilité, à cette nécessité même essentielle de pouvoir retrouver une communion avec lui. Et ça, c'est confirmé par le verset où il est dit qu'il va faire des choses nouvelles. Il dit même qu'il va envoyer, dans le chapitre 43, il va envoyer quelqu'un pour sauver et garantir le salut. Alors oui, avec Nicole, je pense que le pardon est au centre. Mais pas le pardon que nous avons à vivre. Pour que ce pardon soit, que nous puissions pardonner aux autres et que les autres nous pardonnent, il faut déjà, comme dans la parabole de Matthieu, que nous soyons dans ce bénéfice du pardon accordé par Christ. Au chapitre 18, verset 23, un serviteur a une dette de 10 000 talents. Alors, 10 000 talents, vous avez une idée de ce que ça fait ? Si vous avez 10 000 talents dans votre poche, n'oubliez pas qu'il y a une boîte aux lettres au fond de la salle pour la dîme et les offrandes. 10 000 talents, ça ne va peut-être pas assez, mais on peut mettre une caisse en dessous. 10 000 talents, la dette du serviteur, ça représente 8 220 années de salaire d'un bon ouvrier. Ça veut dire que, vous savez, c'est celui qui a coulé la Société Générale, quelque chose, là. C'est un peu ça, le mauvais serviteur, là, dans la parabole. 8 220 années de salaire d'un bon ouvrier. J'ai calculé, ça ferait environ 1294 fois un SMIC. Soit 147 960 euros aujourd'hui. Petite dette, hein ? Il n'a pas joué petit bras, le serviteur. Et en fait, le pardon, si nous considérons que le pardon dont nous sommes le bénéficiaire est de cette nature et de cette importance, on comprend après que ce serviteur soit repris par son maître lorsque lui n'accorde pas de remettre une petite dette à un de ses amis. Si tu as été pardonné à ce point-là, comment peux-tu imaginer ne pas remettre une dette à ton voisin, à ton ami, même à quelqu'un qui te doit un petit peu d'argent ? Votre saint, le saint d'Israël, ton sauveur. La sainteté de Dieu n'est pas un principe excluant. On pourrait dire, oui, mais si tu es saint, comment je peux rentrer en relation avec toi ? Ce n'est pas une sainteté qui nous maintiendrait durablement à l'écart de notre Créateur. C'est une sainteté qui se veut partagée dans le cadre du salut. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer, verset 16, un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Qui mit en compagne. Alors, le verset 17, je me suis posé des questions et plusieurs dans le groupe étaient aussi, c'est quoi cette histoire ? Bon, ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Ça, on a l'image. Quand j'étais en cinquième, le professeur de technologie a dit, faites un dessin qui représente quelque chose qui a été de l'ordre d'une fabrication humaine pour presque un acte magique, ou etc., pour rendre visible un événement. Et moi, j'avais choisi la traversée de la mer Rouge au cinéma, dans le film de Cécile B. 2000, vous voyez, quand il va, c'est une scène qui... Hein, et j'avais vu comment une superposition d'images avait rendu possible de voir la mer séparée en deux et le peuple traversé au milieu. Et j'avais une bonne note pour mon devoir, j'étais content et fier de moi. Mais ça me fait dire, verset 16, « Il fraya dans la mer un chemin, dans les eaux puissantes un sentier. » Dieu est capable de faire ça de manière concrète par rapport à Israël. Et après, le verset 17, « Mais qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche ?» Et là, je ne comprenais pas le verset, jusqu'à ce que ce texte de l'Exode me revienne et qu'on voit l'armée de Pharaon. Et je pense que J'ai repensé à la Bible de Michel, il avait une Bible Scofield où il y avait le texte hébraïque sur la couverture rouge-brun, là, et on voyait le texte en hébreu. Et quand j'avais vu, au début de mes études, ce texte, j'avais constaté qu'il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, et il n'y avait pas non plus de signe comme les points d'interrogation, d'exclamation, etc. Et ce n'est pas simple à lire un texte où il n'y a pas de point, point de virgule. Je disais à quelqu'un justement qui me disait, moi j'aime bien écrire, mais j'ai des problèmes avec les points et les virgules. Ben oui, mais un texte qui n'a pas de point, pas de virgule, c'est compliqué. Et tout à coup, mais si je mettais un point d'interrogation, parce que ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, on voit la mer rouge qui s'ouvre. Et si à la phrase verset suivante, je rajoute un point d'interrogation, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Et tout à coup, mais c'est ça. Si je veux comprendre ce verset 17, je mets un point d'interrogation qui reprend l'idée d'Israël poursuivi par Pharaon et qui est vaincu, l'armée de Pharaon est noyée. Et... voilà, ça renvoie au psaume 20, verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Sur quoi vous appuyez-vous? Parfois, on peut chercher à s'appuyer sur plein de choses et qui ne sont pas forcément utiles. C'est Fanny qui soulignait que le verset 15 insiste sur cette proclamation. Je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, votre Saint, et la sainteté de Dieu consume les puissances de l'adversaire. Votre sacré, disent plusieurs versions, eh bien c'est cela. Et Fanny était... là, on disait, voilà, être avec ce saint qui marche avec nous, c'est une réalité. Là où nous avons le sentiment que plus rien n'est possible, que notre vie se trouve dans une impasse, il y a une traduction de ce passage qui dit « Dieu, ce n'est pas créer un chemin, Dieu roule un chemin ». C'est une des traductions de l'hébreu. Oh, moi, j'aime bien cette image-là. J'imagine que quand je marche, c'est pratique ces micros sans fil, hein. Finalement, je viens de réaliser à l'instant, en me levant. Quand je marche, en fait, Dieu déroule le chemin de mes pas. Ça veut dire que je n'ai pas le chemin qui forcément monte tout d'un, que je vois jusqu'à l'horizon, qui passe par... Non, non, il déroule le chemin en fonction de ma foi, des pas que j'ai à faire. Pas plus, pas moins. Mais j'ai cette certitude qu'il roule le chemin. Et je trouvais cette image du... verset, je crois que c'est, il mettrait, verset 19, il mettra un chemin dans le désert, il roulera un chemin devant toi. Est-ce que tu as peur ce matin de ce que tu dois vivre et faire? Eh bien, est-ce cette certitude, cette proclamation d'Ésaïe, il va rouler un chemin devant tes pas? Certains ont quelques dizaines d'années d'expérience avec Dieu. Certains ont eu une famille qui était avec le Seigneur et tous peuvent proclamer qu'il a été fidèle et qu'il a roulé le chemin devant le pas, même si on se disait, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est là ma foi, j'avance avec lui. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus et ne considérez plus. Ah, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, est-ce que c'est facile de plus penser à ce qui est? Et puis, mercredi, il y a quelqu'un qui a dit, bah, moi j'ai une histoire à vous raconter. C'est que parfois, quand on est confronté à des moments traumatiques, difficiles, qui ont marqué notre vie, on reste cristallisé dessus. Ouais. Alors, certains pourraient dire, oui, mais lui, il n'a peut-être pas vécu. Moi, j'ai vécu des choses... terrible dans ma vie. Et je repensais ça tout à l'heure. Quand j'avais 5 ans, ça a été tellement dur et tellement traumatique que j'ai imaginé que le monde entier, ce n'était pas des êtres humains. C'était que des robots. J'avais 5 ans. Hein. Il n'y avait pas la télévision, je n'avais pas vu Star Trek ou autre chose. Hein. Mais j'avais, pour me mettre à part de ce monde qui avait été si violent avec moi, j'avais dans la tête, oui, mais en fait, il n'y a que des robots autour de moi, il n'y a que moi qui suis humain. Puis je me rappelle, j'étais avec ça dans la tête, et je disais, bon, peut-être que ma mère, c'est quand même quelqu'un de vivant, c'est peut-être un être humain. Mon frère? Ouais, là, je suis pas sûr, hein. Vu son comportement, etc. Donc, mon frère, peut-être que. Et j'avais dans ma petite tête d'enfant de 5-6 ans cette idée que. Mais est-ce que nous pouvons ne plus pas penser aux événements du passé simplement sous l'angle du trauma, de la violence, de ce qu'on a vécu, mais aussi se dire, Seigneur, je te remets ça, et malgré cela, je vais vivre. Alors, je vais demander à Christiane de venir. Et elle va vous parler d'un trauma, non pas qu'elle a subi, mais que quelque chose a subi. Et il y a sur le bureau de l'ordinateur un dossier avec quatre photos. Tu demandes à les faire passer si tu veux, quand tu veux. Hein? C'est toi qui es le chef maintenant. Non, 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 pourquoi le petit. On s'est vu hier. Le qualificatif préféré de Christiane, c'est petit. C'est pas vrai. J'ai fait un petit texte. Je vais faire une petite intervention. Et moi, je l'ai repris. J'ai dit, mais non, 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 non. Fais ce que le Seigneur t'a donné de nous donner.
Merci. Attends. Ma sœur m'a offert, lors d'un anniversaire, un liquide en barre. Un liquide en barre, c'est un arbre, c'est un. Comment? Ça y est, le mot m'échappe. Un érable, voilà. C'est un érable d'Amérique. Et
C'est ça.
c'est. Voilà. Ça, c'est une photo d'hier. Mais vous allez voir les transformations. Alors, j'avais écrit, quand il était adolescent, j'ai écrit un petit texte sur mon liquide en barre, parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place dans le jardin à cause de ces changements. Alors, je disais, mon liquide en barre se marre de tant de beauté, paré de rubis, d'ambre, d'agate, de belles qualités. Il se croit riche avant d'être dépouillé. J'avais écrit ça. Mais lui, aujourd'hui, a pris la parole et voilà, mes feuilles palmées et lobées en forme d'étoiles ont la particularité d'être caduques. Avant leur chute, elles attirent tous les regards, flamboyantes, du jaune d'or au rouge carminé, puis au pourpre violacé. Ma mission, éveiller l'émerveillement. Le jour où tout a basculé, un jardinier peu expérimenté m'a essaimé. Venant tout juste de perdre mes feuilles, je me sentais vulnérable. Sans ma cime, sabotée, cabossée, mal dans mes branches. Rompre ma croissance n'a pas de sens. Je voulais juste vivre. Saison après saison, quoi. Que m'apporte cette transformation inappropriée? Comment vivre cette nouveauté? Je crois que le jardinier n'a pas mesuré le poids de son geste. Lui pardonner, oui. Essaimer, mais pas briser. Oser s'engager sur ce chemin offert, ouvert.
On peut remontrer la première diapo.
Alors voilà, là, il
Là,
est
c'est quand il n'est
assis.
pas encore essaimé,
Oui.
c'est-à-dire quand il n'est pas étêté, quand la pointe, le haut est toujours existant. Et là, le voilà quelques saisons après, sans sa tête. Mais alors, ça m'a parlé parce que mercredi, tu disais, ben, il grandit pas forcément en hauteur, mais
S'élargit.
il s'élargit et il prend du volume. Alors, c'est une image. Merci, Christiane. C'est bon? J'ai bien aimé cette intervention de mercredi. Et voilà. Lorsqu'il est dit, ne pensez pas aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, ce récit-là disait, ben, moi, enfin, quand le jardinier maladroit a coupé la tête de son liquide en barre, eh bien, il pensait bien faire. Quelque part, dans notre vie, il peut y avoir des moments où notre tête ou ce qui est appelé à grandir et à culminer en hauteur soit coupé, rasé par des événements, aussi parfois par nos comportements et nos choix, par la violence des autres, par parfois aussi ce qui est considéré comme juste et bon par notre entourage. Et puis finalement, on peut être là dans cette situation où notre partie qui est appelée à s'élever est dans l'être humain, corps, âme et esprit. On pourrait dire que ce qui peut être étêté, c'est l'esprit. C'est-à-dire ce qui nous rend capable d'entrer en relation avec le spirituel, avec Dieu lui-même. Et parfois, l'environnement peut dire, mais ça, c'est pas utile, on coupe. Alors on peut se dire, est-ce que c'est définitif? Et c'était la discussion qu'on avait, entre autres avec Nicole, sur ce qui vient du passé, ce qu'on a pu vivre. Moi, il m'a fallu, jusqu'à ma rencontre avec Dieu, pour que ce qui avait été brisé, cassé en moi, puisse, à un moment donné, être considéré, non pas comme une perte définitive, mais ce qui constituait mon identité, mon histoire, mais mon identité profonde. Et là, tout à coup, sans parler de la question du pardon, des blessures, du trauma, tout à coup, je me suis dit, mais ce que je suis, même si j'ai été arrêté dans ma croissance humaine, cela peut, dans la relation avec Dieu, être non seulement mon identité, mais me permettre de repartir et d'aller plus loin. Et c'est Elisabeth qui disait, mercredi, elle disait que quelque part, cette notion de ne plus penser aux événements du passé, ne pas considérer ce qui est ancien, Elisabeth disait que c'est ainsi que le germe dont il est parlé maintenant, voici je fais quelque chose de nouveau, maintenant ça va germer, ne le considérez-vous pas. Et elle disait, pour qu'on puisse vivre la nouveauté dans notre vie, cela ne peut se faire que si on s'approprie ce qui est ancien et que c'est sanctifié par Dieu. Alors, bien sûr, souvent dans mes entretiens avec des patients dans mon bureau, je leur disais, vous savez, on ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez subi. Et là, pour le coup, beaucoup de femmes qui étaient en soins dans l'établissement avaient été victimes de violences, d'agressions sexuelles, etc. On a beau jeu après de venir en tant qu'accompagnant, soignant, et dire, bah, il faut oublier tout ça. Tiens, va-t'en oublier ce que tu as subi pendant des années, etc. Il ne s'agit pas d'oublier, on n'a pas de gomme, et je disais aux patientes, on n'a pas une gomme magique pour effacer de votre mémoire ce qui a été. Il ne s'agit pas de l'effacer, mais de le voir d'une manière différente et guérie par Dieu. Et là, Elisabeth disait, c'est un passage absolument essentiel, il ne peut pas y avoir de passage à autre chose si on ne guérit pas. Il n'y a pas de nouveauté si ce qui est ancien n'est pas guéri par Christ. Et je vous assure, frères et sœurs, je suis certain que nous sommes tous concernés par cela. Tous. Comment et à quel point j'accepte que Dieu guérisse ce que je suis? Ou est-ce que je continue à regarder ces événements passés et que là, l'adversaire a beau jeu de garder mon regard cristallisé là-dessus et de ne pas rendre possible le fait de vivre en nouveauté de vie avec cette histoire, avec ces souffrances, mais qui ont été guéries, apaisées et qui me permettent de vivre en nouveauté de vie. Beaucoup de chrétiens vivent dans le passé et c'est ce que disait Elisabeth. Elle disait, il ne s'agit pas de s'attacher au passé. Gardez simplement ce mot-là. On peut rester attaché à son passé et on peut guérir de son passé. J'ai eu la chance, moi, de me convertir à 16 ans et demi. Et dans le pack, je ne le savais pas, il y avait la guérison de tout le passé. Mais en tant que pasteur, j'ai vu aussi des hommes et des femmes qui sont restés attachés. Mais alors quand je dis attachés, liés à leur passé, et à la souffrance qui va avec. Dieu ne veut pas cela. Dans ce passage d'Ésaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Est-ce que tu vas enfin le reconnaître ? C'est le ton qu'il faudrait pour lire la suite du verset. Est-ce que tu vas enfin en prendre conscience ? C'est cela que je veux faire pour toi. J'ai été voir une exposition consacrée à Suzanne Valadon au Centre Georges Pompidou. C'est une femme extraordinaire, blanchisseuse. Elle a commencé à poser pour des peintres, Puvis-de-Chavannes, Toulouse-Lautrec, Renoir, etc., notamment pour des nus. Et puis elle a eu des aventures, elle a été la compagne de ces hommes-là. Elle a eu un temps de longues relations avec Eric Satie, pas n'importe qui. Elle choisait ses compagnons quand même, elle avait du goût. Hein. Et puis elle avait été blessée, meurtrie, et elle a eu un fils. Et son fils portait exactement les mêmes souffrances qu'elle. Et en plus, il était atteint de problèmes psychiatriques. Et donc, quand il a eu 17, 18 ans, comme elle était devenue peintre, une peintre reconnue, vraiment exceptionnelle, elle voyait son fils, elle ne savait pas quoi faire pour l'aider. Alors elle lui a refilé ses couleurs, ses huiles, etc., ses pastels, et puis elle lui a appris à peindre. Maurice Thuriot, un des plus grands peintres français. Alors, il a continué, alors il est devenu même plus célèbre à son époque que sa mère, pourtant, hein, qui avait une grande renommée, et quelque part, elle l'a aidé à devenir, malgré ce qu'il portait en lui. On pense qu'il était schizophrène, il a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique, etc. Mais elle lui a rendu la possibilité de devenir. En fait, c'est une image, mais pour toi et pour moi. Dieu veut te voir devenir celui que tu es. C'est pour ça que ce titre de ce passage 43, c'est « Je t'aime ». Ce n'est pas « Dieu aime Israël ». Ah, j'aime beaucoup, je ne sais pas comment André Chouraki est arrivé, mais il a dû avoir cette révélation. Il dit « Ça ne concerne pas qu'Israël, ça me concerne moi, ça concerne l'Église, ça concerne chaque enfant de Dieu. Je t'aime et je veux que tu deviennes celui ou celle que tu es. » Daniel a mis en exergue le verset 16 en disant qu'au milieu des épreuves, hein, Daniel, je restitue à César ce qui est à César, hein, parce qu'après ils vont venir me voir, mais moi j'avais dit aussi quelque chose. Et c'est pas pour toi. Daniel a mis en exergue le verset 16 en disant qu'au milieu des épreuves, il y a toujours un chemin, une route que Dieu déroule devant nos pas pour nous entraîner par la foi. Un sentier dans les eaux puissantes. Les eaux puissantes, c'est à la fois la mer Rouge qui s'ouvre, mais la mer puissante, la force de l'océan, c'est toujours une représentation du monde dans l'Ancien Testament et dans la Bible. C'est-à-dire que les croyants, bah, ils ont à faire face à cette puissance qui les dépasse, le monde et ce qui l'anime, eh bien, c'est une puissance à laquelle on est confronté. Ah ouais, bah, moi, ça m'est arrivé de faire des bêtises en bateau ou dans mes activités nautiques. Et moi, j'étais sûr que j'arriverais à vaincre la mer. Hein. Voilà, avec mes petits bras, pas de problème. Et parfois, en tant que chrétien, homme ou femme, on a le sentiment qu'on peut se confronter au monde. On ne le peut pas si on n'est pas sur le chemin de Dieu. Si on ne profite pas de ce chemin qu'il déroule, encore faut-il le trouver, savoir où je dois être, où je dois me tenir, où est-ce que je dois marcher. Alors, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vous assure. Frères et sœurs, j'ai eu un bonheur à lire ce texte, à le travailler, à le triturer. Et je remercie profondément le groupe de prière de mercredi qui m'a donné des pistes comme ça, un florilège de pensées et qui nous montre que les promesses de Dieu sont formelles, elles sont certaines, pour toi comme pour moi. Alors peut-être que tu te sens dans le désert. Peut-être que tu penses que, comme un certain jardinier, on t'a coupé la tête et ta capacité à grandir. Mais ce que disait, c'était aussi quelque chose qui m'a frappé, quand Christiane a dit « Oui, alors la tête a été coupée, mais alors il prend du volume, il est en train de prospérer d'une autre manière. » En fait, tu peux prospérer d'une autre manière, même si des choses ont été abîmées dans ta vie. Et ça, je dis aussi bien à Nicole, avec laquelle on a eu une discussion au groupe de prière, qu'à tous les autres. J'aurais jamais pensé, quand j'avais 16 ans et que je me suis converti, que je me tiendrais un jour de manière régulière devant des personnes pour leur parler de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous le dis et je l'affirme. Écoutez, est-ce que vous n'allez pas le reconnaître ? Reconnaître cette voix qui s'adresse à vous et qui dit « Je t'aime ». Merci Seigneur, parce que ta parole n'est pas une suite de mots afin de combler notre ignorance, de nous apprendre des faits, une histoire. Et ta parole est un message d'amour, une parole d'amour qui s'adresse à chacun de tes enfants. Merci pour l'Esprit Saint qui nous ouvre cette parole, qui nous rend conscients de la profondeur de ton amour, de tes plans, de ta pensée, qui nous montre où est le chemin où nous devons marcher. Ce n'est pas de la théorie, Seigneur, c'est de la relation avec toi. Tu veux que nous soyons avec toi et toi avec nous. Alors, merci pour ta parole, merci pour ta pensée, merci parce que quelles que soient les souffrances subies, ta pensée peut et veut s'accomplir dans nos existences, afin que nous devenions vraiment ce que tu as dans ton cœur de Père pour chacun d'entre nous. Garde-nous, Seigneur, de vouloir rester les regards posés et entretenir les choses du passé. Je veux, nous voulons vivre des choses nouvelles en toi et avec toi. Amen.